L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Pasteur Wallace, Fernand, on est vraiment heureux de pouvoir partager ensemble votre témoignage de vie. Et j'ai une première question qui me vient. On est dans une église ici, on ne devient pas pasteur du jour au lendemain, c'est vous avez certainement accepté Jésus-Christ. Je voudrais un peu savoir comment ça s'est passé, comment vous avez découvert Jésus, personnellement, pasteur Wallace.
Pour ma part, j'ai passé quasiment toute ma vie dans une église. Mais ça, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à 11 ans, j'étais dans une église baptiste, et puis il y avait un évangéliste qui est venu des États-Unis. Et quand il a fait l'appel pour le salut, j'ai donné ma vie au Seigneur cette journée-là. Et vraiment, mes sentiments, mon cœur, mes désirs ont changé. Je me souviens, je suis retourné à la maison et j'avais une Bible déjà, mais là, j'ai mis la Bible sur la table de cuisine et j'ai dit, là, il faut que je découvre c'est quoi la vie chrétienne et comment qu'on peut vivre la vie chrétienne. Mais c'était vraiment cette journée-là que j'ai donné ma vie au Seigneur, puis il y a eu du changement. Et à partir de là, j'ai commencé à expérimenter la bonté de Dieu.
Amen. D'accord. Et vous, Fernand, c'est pareil, vous êtes né dans l'Église, vous avez rencontré le Seigneur toute petite?
moi, mes parents ont accepté le Seigneur lorsqu'ils étaient dans la vingtaine. Puis, en 1954, j'avais 5 ans. Ça fait que je n'ai pas 25 ans. ma mère nous faisait toujours un culte avant qu'on se couche le soir. Elle nous racontait des histoires, au lieu que ce soit des histoires de Cendrillon ou Blanche-Neige. C'était des textes bibliques qu'elle nous disait puis qu'elle nous racontait l'histoire. Puis ce soir-là, elle nous a raconté l'histoire, qui est la vérité, que Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien, puis que Jésus devait être crucifié, mourir pour nous, puis il avait averti ses disciples de ça, puis là, il nous a tout expliqué la crucifixion, comment que le Seigneur a souffert pour nous, comment que Jésus nous aimait, comment que Jésus est venu ici sur la terre pour ça. Il savait même avant de venir que c'était son but ultime, c'était de mourir pour nous les pécheurs. Il nous a aimés le premier. Puis là, il avait parlé à Pierre spécifiquement, puis il avait dit à Pierre, avant que le coq chante deux fois, tu vas me renier trois fois. Puis l'apôtre Pierre a dit, oh non, Seigneur, ça ne m'arrivera jamais, même je suis prêt à mourir pour toi. Puis là, ma mère nous a dit, ma petite sœur et moi, que justement, le coq a chanté deux fois, puis Pierre le renier devant les deux servantes. Puis, je me suis mise à pleurer, je pleurais, puis j'ai dit, oh, moi, je ne renierai jamais Jésus, je ne le renierai jamais. Puis, c'est là vraiment que j'ai réalisé que Jésus était mort pour moi, puis je l'ai accepté comme mon sauveur ce soir-là. Puis après, ma mère, elle m'a raconté qu'elle voyait vraiment une différence dans ma vie, même à 5 ans. Je m'en allais sur le trottoir, je chantonnais, « Oh, quel beau soleil dans mon âme! Il éclaire, illumine tout! À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. » Je chantais des petits chœurs comme ça, puis même les voisines m'invitaient chez elles pour que je leur chante. Elles disaient, « Chante-moi une petite chanson! » Puis je chantais des petits cantiques du Seigneur, puis elles me donnaient des pommes, puis des fois des petits bibelots, puis... J'étais toujours la bienvenue, puis même, j'ai osé imposer les mains aux malades à 5 ans. Ça fait que j'étais toujours la bienvenue dans l'entourage. C'est comme ça que j'ai accepté le Seigneur.
D'accord.
Et vous, pasteur Wallace, en fait, vous aviez quel âge quand vous êtes allé à cette réunion, vous avez dit?
J'avais 11 ans.
OK, et vous étiez avec vos parents?
Oui.
D'accord, vous avez été aussi élevé dans un foyer chrétien?
Oui. Mais c'est que ce que j'ai remarqué, il y a eu du changement dans ma vie, mais j'ai réalisé aussi, puis ça c'est avec le temps, que on dit toujours que aller à l'Église, c'est naturel, aller à Jésus, c'est spirituel. OK? Et c'est ça la différence. C'est que le salut de Dieu, c'est vraiment une expérience surnaturelle, c'est une révélation de la grâce de Dieu. Et je peux dire que à partir de cette journée-là, même si j'avais 11 ans, ma vie a changé. Et j'ai vu une différence dans la famille, j'ai vu une différence à l'école, j'ai vu une différence partout. Et c'est vraiment... le fait que j'étais dans un foyer chrétien, c'est bien. Mais vous savez, c'est pas toujours... le fait d'être dans un foyer chrétien, c'est quelque chose de personnel. Et j'aime ça. J'aime ça parce que chaque personne qui, comme moi, c'est différent. Et c'est merveilleux, c'est glorieux, c'est quelque chose de particulier.
D'accord. Moi, personnellement, j'ai accepté le Seigneur très jeune aussi, mais malheureusement, comme beaucoup de jeunes dans l'Église, on rétrograde. Et je ne sais pas si ça a été votre cas, comment a été un peu votre enfance? Est-ce que vous êtes resté attaché au Seigneur toute l'enfance, toute l'adolescence? Est-ce qu'il y a eu des crises? Est-ce que vous êtes resté attaché au Seigneur?
Bien, moi, j'ai été béni parce que ma mère, elle aime le Seigneur et nous autres, nous restons dans le temps à Ville-Laval et je suis allé à Montréal. Et je suis allé dans une église pentecôtiste à l'âge de 13 ans. Et j'ai découvert qu'il y avait le baptême du Saint-Esprit qui existait. Puis pour moi, c'était « Oh, c'est différent, c'est quoi ça? » Et nous autres, on voyageait par autobus pour se rendre en ville. Et c'était un local qui m'ont dit qu'ils vendaient des bicycles à pédales auparavant, puis ils ont converti ça en église. Puis moi, à 13 ans, je rentre dans cette église-là, puis... J'entendais parler de baptême du Saint-Esprit, puis parler en langue et tout ça, et je me suis dit, bon, je comprenais pas, mais j'ai dit, Seigneur, si c'est pour moi, je veux le recevoir. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je suis allé le dimanche soir dans cette église-là, peut-être mon père ne savait pas, mais en tout cas, je me suis rendu avec ma mère, avec d'autres amis, et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je sais pas c'est quoi ça, mais j'ai dit, si c'est pour moi, aujourd'hui, j'ai dit, je vais le recevoir. J'ai dit, je serai pas plus saint la semaine prochaine, mais si c'est pour moi, je vais l'avoir. Et chose que je me souviendrai toujours, quelqu'un m'a dit, regardez, après la réunion, on avait nos mains, j'avais mes mains élevées, quelqu'un m'a dit, parmi ces sœurs-là qui priaient, ça faisait 45 minutes, que j'avais les mains en l'air. Mais quand j'ai changé de mon langage à parler en langue, c'est comme le ciel est descendu dans la place là. Et j'étais tellement c'était tellement merveilleux que quelqu'un m'a dit il va falloir que tu fasses attention sur l'autobus de pas parler trop fort parce qu'ils vont penser que c'est vraiment t'es vraiment dérangé. Mais ça empêche que c'était le soir que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et c'était vraiment glorieux et merveilux. Et crise d'adolescence, j'ai jamais cru à ça. Parce que j'ai jamais vu ça dans la Bible, crise d'adolescence. Fait que je me suis dit, mais dans mon cœur, non plus, je ne croyais pas. Puis, le Seigneur m'a gardé à travers ces années-là. Et puis, j'ai eu ça dans mon cœur que non, j'ai pas besoin de vivre ça. Puis, personne n'a besoin de vivre ça. Et c'était hors de ma vie, quoi.
Oui. Donc, pour vous, le point fort de votre adolescence, c'était vraiment cette réunion, cette rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Et ça a complètement changé votre adolescence, ce qui fait que vous n'avez pas eu cette crise d'adolescence, c'est ça?
Exactement.
Pour vous, ça a été un peu pareil, Fernande? Vous avez eu, comme disent beaucoup de gens, une crise d'adolescence?
Moi non plus, je n'ai pas. Le Seigneur est capable de nous garder.
Amen.
Il dit, instruis l'enfant dès sa jeunesse et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas.
Amen, amen.
Le Seigneur a su me garder aussi, par sa grâce. Puis moi, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit à 9 ans.
D'accord.
Ça fait que c'est merveilleux de connaître le Seigneur jeune. Il y a déjà eu, je pense que c'est l'évangéliste Billy Graham ou son fils qui ont fait un sondage. Puis, d'après ce sondage, les jeunes qui viennent au Seigneur en bas de 20 ans, il y a à peu près 90% quand on prêche, là, qui accepte le Seigneur, puis qui reste fidèle au Seigneur. Puis quand on prêche aussi, il y a à peu près juste 10% des adultes qui acceptent le Seigneur. Mmh. Ça fait que pour moi, c'est très, 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 très important, la jeunesse. Parce qu'on voit un immense résultat, et aussi, ça dure toute la vie.
Et est-ce que le fait d'avoir été, de faire partie d'une église locale, ça vous a aidé pendant ces années de jeunesse, justement? Est-ce que c'est quelque chose qui a fait la différence dans votre vie?
Absolument. Moi, mon père était pasteur, mais avant de devenir pasteur, est-ce que je peux vous raconter un peu sa vie?
Allez-y, Fernande.
Leur vie. Mes parents ont accepté le Seigneur, ils étaient dans la vingtaine, puis c'était ici à Granby. Sur la rue Saint-Charles-Sud, ça change rien en tout cas, mais c'est deux femmes qui leur ont témoigné. Puis la première fois que mon père est allé à l'église, j'ai trouvé ça complètement merveilleux. C'était sœur Marie-Paul Gagnon, s'il y en a qui connaissaient, et sœur, en tout cas j'oublie son nom là. Puis en tout cas, la première fois que mon père est allé, il a trouvé ça merveilleux. Il est arrivé à la maison, il a raconté ça à ma mère. Puis je pense la semaine après, ma mère est allée. Puis là, ils ont dit, « Oh, c'est vraiment la religion des apôtres! » Toutes les deux ont accepté tout de suite. Puis c'était des bons catholiques, ils aimaient le Seigneur, mais le Seigneur s'est révélé tout de suite à leur cœur. Puis là, mon père s'est dit, « Oh, faut que j'aille dire ça à ma famille. » Parce que mon père venait d'une famille, je pense, de 16 enfants, puis il était l'aîné de la famille. Puis il s'est dit, « Oh, j'ai la bonne nouvelle, puis je vais leur témoigner ça. » Puis tout de suite, il était content, il s'est dit, « Ils vont accepter ça. » Mais personne n'a rien cru. Ils l'ont trouvé fou, puis ils se demandaient qu'est-ce qui se passait avec lui, puis tout ça. Mais ça a pris plusieurs années avant qu'il y en ait qui viennent au Seigneur. Mais après ça, mon père a eu un lot à bois, qu'on appelle, puis ça a été donné comme par le gouvernement, puis il défrichait le bois. Puis dans ce moment-là, il vivait à peu près 1,5 mille dans le bois. Puis même en hiver, il nous emmenait à l'église, ma sœur et moi. Ma sœur, elle avait juste 1 an, puis moi, j'avais... 2 ans et demi à peu près, on a 1 an et 10 mois de différence. Puis il nous emmenait en hiver en traîne sauvage, pour les Français c'est en luge. Puis c'est ça, il marchait dans le fond du bois tous les dimanches, il manquait pas une réunion. Ça fait que moi aussi j'ai été élevée à aller à l'église tous les dimanches, on y allait le dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir. Puis après que mon père est devenu pasteur, bien souvent, il y avait les campagnes d'évangélisation, puis à ce moment-là, c'était 7 jours par semaine. Puis même, j'ai connu des gens qui sont allés 72 jours d'affilée. Ça, c'était le pasteur, l'évangéliste Marcel Favreau qui faisait des réunions à Pointe-aux-Trembles. Mais c'est pour dire que quand on est sauvé, là, c'est la vie qui change, puis on a une faim et une soif du Seigneur, puis c'est pas une obligation d'aller à l'église. J'avais toujours hâte à la prochaine réunion. Ça fait que c'est une joie d'entendre parler du Seigneur.
Ça n'a jamais été une obligation de vos parents. Vous devez aller à l'église en plein hiver. Je sais qu'ici, vous n'alliez certainement pas à l'église en Mercedes, j'imagine, à l'époque.
Non, c'est pas ça. Mon père, c'est un homme de principe. C'est un homme d'affaires, mon père. Il est un courtier en assurance et... il avait ses principes de vie, puis il m'a transmis des principes de vie. Et je me souviens, il m'a dit que jusqu'à 18 ans, tant que je vivrais sous son toit, on allait à l'église dans notre ville, et c'était coulé dans le ciment. Mais je peux vous dire, ça c'était un bien pour moi, parce que quand Dieu a entrepris merveilleusement dans ma vie parce que je me souviens, j'ai été en Ontario. Je suis allé là avec un groupe de l'Église et c'était tous des Anglais. Et j'étais dans la réunion, puis vers le milieu de la fin de semaine, j'ai commencé à pleurer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est comme Dieu m'a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, c'est pas votre place ici. Il dit, votre place, c'est à Montréal. Et j'ai compris le sens de cette révélation, parce que Dieu est en train de me changer de peuple. Et j'ai fait mes adieux à ceux qui étaient de l'église anglaise. Et je suis parti en ville à Montréal, puis Dieu a ouvert la porte pour moi que je rencontre un pasteur français. Et C'était des. Je peux vous dire, de dimanche à mercredi, j'ai tout au salon pour la prochaine réunion mercredi soir. Puis de mercredi soir à samedi soir, j'ai trouvé ça très long. Et à chaque fois que j'allais en ville à l'église, ça me prend une heure d'autobus pour me rendre et une heure d'autobus pour revenir. Le dimanche, je partais très tôt le matin. Je pense que c'est peut-être avant 8 heures le matin. Puis j'arrivais à la maison à minuit du soir parce que je voyageais pas... aller après la réunion, je restais en ville. Mais je peux vous dire que pour moi, c'était à tel point que même quand j'ai travaillé à Montréal, j'ai travaillé à centre-ville, puis mon patron, il était fâché après moi. Il voulait pas que j'aie une augmentation de salaire, il voulait pas que me donner des promotions, parce qu'il voyait les revues des évangélistes, il voyait ma Bible. Et puis, il m'a chicané parce qu'il dit, là, je veux que tu sois un homme d'affaires. Puis là, ça marche pas. Mais quand même, c'était des temps très bénis de ma vie. Puis l'église, pour moi, c'était ma deuxième maison. L'autobus, auto, n'importe quoi, pour pouvoir juste être là, c'était juste... Même je me souviens une fois, ma mère est allée voir le pasteur. Il a dit... Parle à mon fils, il est jamais à la maison, puis je veux qu'il m'aide à la maison. Puis là, j'ai bien vu la face de mon pasteur, il dit, qu'est-ce que je vais dire à ta mère, je sais pas, mais lui, il voyait bien que j'étais béni à l'église, fait qu'il pouvait pas vraiment consoler ma mère, mais c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment des temps bénis que j'ai vécu à l'église.
Et je vois que vous avez vraiment mis le Seigneur en premier dans votre vie, dans votre... Quand vous avez grandi. Est-ce que c'est dans le Seigneur aussi que vous vous êtes rencontrés? Est-ce que c'est dans la rue, dans une fête, dans un repas particulier ou à l'église?
Et surtout, comment vous avez su que vous étiez fait l'un pour l'autre? Parce que je crois que c'est la question que les gens se posent souvent quand ils rencontrent quelqu'un.
C'est sûr que l'église, pour moi, ben, c'était très important. Et puis, pour moi, son père, vu qu'il était évangéliste, pasteur, il est venu dans l'église où j'allais. Et par la connaissance d'un autre ouvrier du Seigneur, il a fait comme de connexion pour nous deux. Il dit, Wallace, Fernand a des yeux sur toi, puis Fernand, moi j'ai des yeux pour...
C'est pas ça!
OK, continuez!
Mon père avait été invité à prêcher à son assemblée à Montréal. Puis mon mari, il était placier, puis il donnait les livres de cantiques. Puis il m'a remarqué, il me trouvait de son goût. Puis on y allait assez souvent. Puis là, le frère Bouchard, que vous connaissez tous, est allé à l'école biblique avec mon père, puis il m'a connu depuis l'âge de 6 ans. Puis là, il m'a dit, « As-tu remarqué le grand anglais? Quand tu viens, il dit, il est timide, lui, mais il dit, je te dis qu'il se plante, hein? » Puis là, il a dit à Wallace, il dit, « Ah, tu as remarqué, la petite poulet, elle vient pas mal souvent avec son père. » Ça fait que c'est lui qui nous a mis la puce à l'oreille. Parce que moi, je l'avais pas remarqué au début. Mais là, j'ai commencé à le remarquer. Puis, c'est ça, une fois, il y avait une réunion de jeunesse à notre assemblée, puis leur assemblée, les jeunes sont venus chez nous, à l'église. Puis là, ben, tu peux continuer.
Avant d'aller vers Granby, parce que j'étais de Montréal, j'avais mon autre placier, mon ami placier, qui dit, « Wallace, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que là, tu veux sortir avec Fernand, là, notre amitié, ça va tout briser. Et, c'est pas mal grave, mais en tout cas, c'est... » Fait que je lui ai dit, il est à la maison chez mes parents, j'ai dit, je vais faire une chose, il dit, on va descendre au sous-sol chez mes parents, puis j'ai dit, je vais prier. Puis si c'est la volonté de Dieu, j'ai dit, je pars pour Granby, puis si c'est pas la volonté de Dieu, ben, je vais continuer ma vie comme je suis là. Puis ça n'a pas pris, je dirais, même pas 10 minutes, je priais, je dis, Seigneur, parle-moi. Que... Et puis, le verset qui est venu dans, dans mon cœur, c'est que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut le fermer. Mm-hmm. Puis quand que Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Fait que, en dedans de 5 minutes, 10 minutes, mon ami m'a dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu aller à Granby ce soir? J'ai dit, oui. Là, sa face y a tombé. Oh, oui. Fait que lui, cette soir-là, ben lui, il est allé en ville, à Montréal. Puis moi, j'ai pris mon auto pour aller à Granby. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à se rencontrer. Puis c'était comme ça que
vous êtes rencontrés. Vous aviez une auto, donc vous avez quel âge à peu près?
Non, j'avais pas d'auto.
OK. Vous alliez en auto, mais c'est quand même.
Mais j'ai emprêté l'auto de ma mère.
D'accord.
Parce
vous avez
que
quel âge?
Moi, c'est soit que j'étais à pied ou en autobus. Mm.
Fait
que,
vous aviez quel âge?
22 ans.
22. D'accord. Et vous? Fernande?
Moi, j'avais 20 ans quand on s'est rencontrés. Puis c'est ça. Puis moi, j'ai su que c'était pour être l'homme de ma vie. Parce que c'est un homme franc, honnête, il était transparent aussi, mm-hmm. comme il est encore aujourd'hui. Puis, on parlait des choses du Seigneur comme de raison, mais on ne parlait pas juste de ça. Mais une fois, il a dit le verset, « Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Puis ça faisait juste la deuxième semaine qu'il venait me voir. Puis là, j'ai dit, « Wow, ça, c'est le gars pour moi. » Parce qu'il y avait des principes bibliques, puis c'est une bonne base, c'est la meilleure base.
J'aimerais juste rajouter quelque chose. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à être sérieux, pour Fernand, là, je priais, puis j'ai dit, oh, je le trouvais comme une vedette de cinéma. J'ai dit, wow, j'ai dit, moi, je suis un petit gars comme tous les autres garçons, mais j'ai dit, elle, pour moi, c'est comme si j'avais gagné le gros lot. Puis, qu'est-ce qui était drôle? Chaque fois quand j'étais en prière, puis je pensais à elle, on dirait que j'étais béni. Je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Puis, c'était tout le temps que, chaque fois quand je pensais à elle, quand j'étais chez mes parents, à l'église à Montréal, c'était toujours ça que j'avais dans mon cœur. Que je serais béni avec elle, que j'étais béni avec elle. Et je savais que c'était pas un hasard qu'on s'est rencontrés comme ça.
Mm-hmm. Les temps où on rencontre son futur conjoint ou ce qu'on pense être son futur conjoint, c'est des temps très particuliers où il y a beaucoup les émotions qui sont là. Et des fois, il y a des gens aussi qui peuvent nous dire certaines choses. Je pense que c'est pas celle que tu dois épouser. Je pense que c'est ça. En tout cas, chacun a un peu son avis. C'était une conviction que vous avez eue? Vous avez eu une préparation au mariage, peut-être? Je sais qu'avec Annabelle, quand je l'ai rencontrée au début, j'ai été voir mon pasteur, parce que j'étais un peu dans la confusion, et il m'a posé une seule question, ça a été sa préparation au mariage, il m'a dit, est-ce que tu l'aimes? Et quand j'ai su effectivement que je l'aimais, pour moi, c'était bon. Pour vous, vous avez une conviction, vous avez eu quelque chose?
Mais mon mari a eu un peu de combat, comme il a dit, avec son ami, là, mm-hmm. parce qu'il était les deux partenaires, les deux jeunes hommes ensemble qui se tenaient dans l'église tout le temps, qui priaient toute la journée le dimanche, puis ils jeûnaient tous les dimanches. Okay. Ça fait que lui, il perdait son partner, comme on dit. Ça fait qu'on a eu un peu d'opposition. Mais il faut toujours regarder à Jésus, hein? C'est ça.
C'est ça, oui.
Et donc, vous avez fini par vous marier. Et ça fait combien de temps que vous êtes mariée aujourd'hui?
41 ans.
Ah, oh, ouais, 41 ans.
Puis je voudrais vous dire qu'on n'a pas eu beaucoup de difficultés d'adaptation. Ça a coulé douce. Même nos enfants, avant qu'eux autres se marient, notre garçon et notre fille n'ont pas eu peur du mariage parce qu'ils nous ont vus heureux. Puis c'est ça, on n'avait pas de conflit. Je peux pas dire qu'on n'a jamais eu de... qu'on pensait toujours 100% pareil, là, mais on s'est toujours traité avec respect. On s'est jamais dit de mauvais mots, des gros noms. On s'est toujours couché le soir, pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. On a pratiqué les principes du Seigneur, quoi, puis ça marche.
Et c'était quoi votre vision ensemble quand vous êtes mariés? C'était d'avoir des enfants, de construire une maison, ou alors est-ce que vous aviez d'autres plans ensemble de servir le Seigneur? C'était quoi votre priorité en fait?
Ben, notre but, c'était vraiment de continuer à servir le Seigneur, d'avoir des enfants aussi. Moi, toute ma vie, j'ai passé ma vie dans l'église. Mon père était pasteur, je jouais de l'orgue dans l'église, la musique aussi. J'ai fait l'école du dimanche. Mon mari, il a prêché, je pense, la première fois, il avait 13 ans. Je sais pas, là.
Bien, une affaire que je peux dire, honnêtement, c'est que de plus en plus, même à partir de quand je me suis marié, c'est que j'ai réalisé l'importance de mettre la parole de Dieu en premier. Puis, à travers les années, c'est la même chose aujourd'hui. C'est j'ai toujours dit à ma famille que qu'est-ce que la Bible dit de ça. Puis, je me suis acheté, je me souviens de mon pasteur dans le temps, il dit, achetez-vous une concordance. Et dans ce temps-là, c'était dispendieux, mais c'est dispendieux. Peut-être aujourd'hui, la même chose, mais j'ai acheté un brique d'une concordance. Et chaque fois quand j'avais une question que je me posais, je trouvais quelque chose dans la Bible pour ma situation. Et c'est ça qui était pour moi, puis est encore aujourd'hui, fondamental, parce que c'est la parole de Dieu. C'est inspiré de Dieu, c'est pour mon bien, même si ça peut me faire mal, ça, on dirait que ça me coupe mes privilèges, je pense ça dans le naturel, mais c'est pour mon bien. Et c'est ça qui était très important, la parole de Dieu, parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, et ça, ça fait un fondement. Et autre chose que j'ai appris, c'est aussi de prier. Parce que de nous autres même, on n'a pas, j'ai pas la capacité de vivre la vie chrétienne, j'ai pas le pouvoir de vivre cette vie chrétienne là. C'est trop haut, c'est trop saint, c'est trop haut. Mais je peux par quand que je prie à Dieu, je suis un homme avec mes facultés pareilles comme n'importe qui, mais Dieu m'a donné des forces. Dieu m'a donné la force que j'avais besoin de dire, c'est écrit, et même si je suis pas comme les autres, même si je suis pas comme les autres chrétiens, on a adapté ce verset-là, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Puis peu importe, puis je me souviens, juste pour vous, quand je me suis marié, j'avais loué trois pièces et demie, un logement de trois pièces et demie, et je payais 95$ par mois pour cet appartement-là. Sauf que j'avais pas d'auto, je travaillais en ville, fallait que je paye le transport pour aller en ville, et deuxièmement, c'est que j'avais 72$ dans mes poches à toutes les semaines, et là-dessus, je payais ma dîme. Fait qu'il me restait 64$ pour mes dépenses. Et comme vous êtes capable de compter comme moi, j'arrivais pas. Mais ça fait rien. J'ai dit, ça dérange pas. J'ai dit, je paye ma dîme pareil. Et ça, c'est...
Excusez, avec 72 par semaine, la première semaine qu'on s'est mariés, là, après la lune de miel, la première chose qu'il a faite, il arrive avec sa paye, il me compte, il met ça sur la table, puis là, il déduit la dîme. Il arrondit ça à 8$, parce qu'à 72, ça serait 7,20. Mmh. Mais il arrondit toujours plus haut.
Effectivement.
Parce qu'on n'est jamais perdant avec le Seigneur.
Amen. Vous parlez d'une lune de miel après d'habiter ensemble. Donc, en fait, vous vous êtes mariés. C'est là.
On était mariés, puis on est allé en voyage de noces. Après, on habitait ensemble.
C'est ça, vous avez habité ensemble après votre mariage.
Oui, mais c'est ça. Mais sa première paye, c'est ça qu'il a fait. C'est sur le coin de la table, là.
D'accord. Il y a quelque chose que j'ai remarqué un peu en vous observant depuis ces 2 ans. Comme l'a dit le pasteur Joël, qui est votre fils, vous êtes un exemple pour beaucoup. Et moi, j'ai remarqué, pasteur Wallace, que parfois vous portiez le sac à main de Fernande. Quand j'ai vu l'autre soir, vous partiez d'une réunion, vous étiez à pied tous les deux, main dans la main, vous lui avez passé votre veste. Et je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, je voyais un couple et le gars marchait 10 mètres devant sa femme, devant sa copine en tout cas. Et je les voyais tout le temps dans la rue, ils étaient tout le temps en train de marcher 10 mètres devant l'un de l'autre. Mais vous, je vois que, encore un peu âgé, vous vous tenez main dans la main ensemble. Je vois aussi que vous ouvrez la porte pour elle parfois, etc. Vous avez appris ça comment? C'est dans la Bible, c'est naturel, c'est quoi?
Je vais vous dire, mon mari a une gentillesse de cœur. Mm-hmm. Il m'ouvre pas toujours la porte, mais c'est un homme qui est courtois. Quand on va faire l'épicerie, je rentre jamais les sacs. C'est toujours lui qui fait ça. Vraiment, là. Depuis toujours.
C'est naturel, parce que Wallace, ou c'est parce que vous avez reçu des principes bibliques que ça vous a amené à ça, parce que vous avez aimé Fernande comme Christ a aimé l'Église, ou vous essayez de le faire?
Bien, premièrement, j'ai tombé en amour. C'est pas... Je me souviens, j'étais arrivé à la maison, ma sœur était dans le salarium, puis elle m'a regardé, elle dit « Wallace est en amour ». Pour une personne comme moi, là, c'était grandiose, c'était « Wow, le ciel vient de tomber, là, il voit plus clair ». C'est l'amour avec le grand « A ». OK? C'était pas, oh, je l'aime. Non. C'était, puis je vais dire, actuellement, moi, je considère, c'est pour ça que je suis béni, parce que je me dis, ma femme, c'est ma femme, c'est un don de Dieu, c'est ma bénédiction de Dieu, je suis heureux. Je vais dire comme elle a dit des fois, je suis plus heureux aujourd'hui que je l'étais quand je me suis marié. On a passé une vie bénie, on a passé des chants, des choses comme tout le monde, mais seulement que aujourd'hui c'est ma femme, puis je suis content. C'est elle.
Et la Bible, celui qui
il
trouve une femme.
Il me traite comme un petit bibelot précieux. Ah.
La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Exactement. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
La Bible dit aussi mieux
vaut. Il faut trouver la bonne.
Oui, c'est ça. Parce que la Bible dit aussi effectivement que mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que d'habiter avec une femme querelleuse.
Absolument.
Vous avez trouvé la bonne.
Mais une autre chose que j'aimerais juste rajouter, c'est que c'était dans le temps de Dieu. C'était dans le temps de Dieu. Je disais pas à 22 ans, j'ai besoin d'une femme, quoi que ce soit. Non, c'était dans le plan de Dieu que nos deux chemins croisaient, parce que moi, j'étais à Montréal, je connaissais pas sa famille, je connais pas son père, je connaissais pas personne. Et c'est Dieu qui a amené nos deux vies ensemble. Et c'est pour ça que je me dis, c'était une bénédiction pour moi. Et ma femme, c'est peut-être drôle à dire, mais c'est elle qui m'a équilibré. On trouve ça comique, mais savez-vous, il y a un évangéliste ici au Québec qui a dit, puis j'y crois vraiment, le succès d'une vie, c'est l'équilibre. OK? Parce que son nom, c'est Mario Mascotte. Il m'a dit, la vie chrétienne, c'est un équilibre. Et c'est pour ça que moi, j'étais, au lieu d'être toujours flotté ou toujours dans une autre direction, cet équilibre est venu par notre vie ensemble. Et ça, c'était un grand bienfait pour moi, parce que on balance des pour et des contre, et ça fait bien pour chacun de nous. Moi, je peux voir des choses que ma femme voit pas, puis ma femme peut voir des choses que moi je vois pas. Mais rien n'empêche que devant Dieu, c'est vraiment nous autres on dit c'est un mariage fait au ciel. Et je vois la différence, parce que j'en vois plusieurs personnes dans la vie. Ils sont mariés, oui, d'accord, mais c'est pas la même expérience. Et mon expérience à moi, ça a été toujours... c'est comme dire, Dieu voulait toujours me donner plus. Et Dieu m'a toujours donné plus dans la vie. Et c'est pour ça que ma femme, c'est un don de Dieu pour moi. C'est un grand plus pour moi. Et c'est pour ça que... je l'aime de plus en plus.
Nos enfants aussi. Nos enfants, vous l'avez entendu parler souvent, Pasteur Joël qui dit que dès son jeune âge, on leur a dit de prier pour leur conjoint, mari et épouse. Puis c'est ça, parce que quand on laisse ça entre les mains de Dieu, le Seigneur est merveilleux, il nous donne le meilleur. Je sais pas, je vais vous raconter une petite anecdote.
Allez-y.
Lorsque j'avais 16 ans, mon père m'a dit, OK, là, tu as 16 ans, Fernande, si tu veux, tu peux commencer à fréquenter des garçons, pourvu que c'est un chrétien. Puis, j'étais en train de faire la vaisselle, c'était un vendredi soir, je faisais la vaisselle avec ma mère, puis là, ma sœur, elle éclate à rire. Elle dit, oh, 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 il n'y avait pas beaucoup de chrétiens dans notre assemblée. Puis elle dit, vas-tu sortir avec un tel? Mais je vais vous dire, ce même soir-là, il y a un gars avec qui j'étais allée à l'école toute ma vie. C'est un chrétien. Il allait à l'église Pentecôte, en bas de la côte chez nous, l'église Pentecôte anglaise. Puis il y avait une réunion de jeunesse. Puis il arrive chez moi, frappe à la porte, je ne l'attendais pas. Il me demande, voudrais-tu venir à la réunion de jeunesse avec moi? Mm-hmm. Ça fait que je suis allée, puis je me suis dit, c'est juste pour démontrer à ma sœur qu'il y avait d'autres chrétiens ailleurs. Il n'y avait pas juste dans notre assemblée. Ça fait que c'est ça. Si on s'en tient à sortir avec un chrétien, ça ne veut pas toujours dire que c'est le bon, parce que c'est un chrétien non plus. Nous, on avertit nos enfants de ne pas commencer à sortir avec personne jeune. Joël, quand il avait 16 ans, il était joli garçon, il y avait des filles qui faisaient de l'œil, puis tout ça. J'ai dit, Joël, 16 ans, t'es pas prête à te marier à 16 ans. Attends d'être plus vieux. Parce que tu risques de faire de la peine à quelqu'un ou tu risques d'avoir le cœur brisé. Mm-hmm. Ça fait que il a attendu plus vieux, puis il a rencontré Mathilde, sa première blonde, puis il l'a mariée. Le Seigneur a envoyé la bonne personne. Fait qu'on n'a pas besoin de fréquenter 50 personnes. Si on se fie au Seigneur, le Seigneur, il nous dirige, il guide nos pas, puis il nous éclaire.
Vous croyez que vraiment mettre le Seigneur en priorité, même si on arrive à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, obligatoirement, quand on met le Seigneur en premier, on trouvera la personne idéale?
Absolument, vous êtes absolument. C'est le Seigneur en premier.
Je vais vous dire quelque chose concernant ça, c'est que moi j'ai lu dans ma Bible, nous lisons ça dans le psaume 23, que l'Éternel nous dirige envers des verts pâturages. Et je crois que quand on a ce respect pour la parole de Dieu, que Dieu nous dirige, des fois que même on n'est pas toujours conscient, mais qu'on marche dans la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que moi j'ai prié pour ma fille qu'elle ait un mari chrétien. J'ai prié pour la femme à mon garçon, qu'elle soit une chrétienne. Et je peux vous dire, honnêtement, devant tout le monde, devant l'univers, que mes enfants, moi, je suis béni au maximum qu'une personne peut être bénie avec les partenaires que Dieu a choisis pour mes enfants. C'est plus que... moi, j'ai toujours dit qu'il y a du bon dans la vie, puis il y a du meilleur. Et puis, Dieu donne toujours le meilleur. Amen. Il choisit même pour nous autres, des fois. Je sais, moi, je me souviens, j'avais 13 ans. Je suis allé pour apprendre le français dans un village en bas de Gaspésie. Et j'ai dit à mes parents, même à 13 ans, j'ai dit, moi, je vais marier une Française. Et puis, ça a toujours resté avec moi, ça, cette pensée-là. Des Anglaises, non. Dieu avait mis ça dans mon cœur, puis Dieu savait que dans peut-être 10 ans de ça, je serais marié avec une Française, mais c'est pour vous dire comment que Dieu bénit lorsque on l'honore sa parole, puis on s'attend, pas juste son bon, tout le monde a du bon, mais moi je crois que Dieu a le meilleur. Et c'est pour ça que je suis béni quand que je pense à mon gendre, quand que je pense à ma bru, comment que Dieu a choisi ces deux personnes-là pour ma famille. Et aujourd'hui, je suis comblé de bonheur parce que je me dis, Seigneur exaucé. Et même lorsque ma femme est enceinte de mon garçon, le docteur a dit là, il dit à ma femme, il faut falloir que tu restes une semaine au lit, parce que sans ça, ça se peut que vous perdez votre enfant. Et puis j'étais le cook à la maison, j'ai travaillé et tout. Et on a prié de cette semaine-là, on a dit, Seigneur, cette fois-ci, là, va falloir. Nous prions que cet enfant-là soit un serviteur de Dieu. Et c'était notre prière de cette semaine-là. Et c'est ça que Dieu a pourvu et a exaucé. Et encore là, même ma belle-mère a prié pour son fils, Pasteur Poulain. Elle dit, j'ai prié Dieu pour un serviteur de Dieu. Puis aujourd'hui, ben Dieu l'exauce. Et gloire à Dieu, il est dans le ministère de se faire au-dessus de 20 ans. C'est pour vous dire comment que Dieu veut nous bénir dans la simplicité, mais parce qu'on met Dieu le premier dans notre vie.
Et donc, vous nous avez raconté comment vous les aviez dirigés pour les préparer au mariage, finalement, et comment vous mettiez la parole de Dieu en premier dans votre foyer. Mais concrètement, comment est-ce que vous mettiez la parole de Dieu en premier pour éduquer vos enfants dans la vie de tous les jours. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit le résultat, vous avez deux enfants dont vous pouvez être fiers et que tout le monde aime. Ils sont bien mariés, ils ont suivi le Seigneur, ils servent Dieu. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est parce que vous aviez une petite astuce ou c'était vraiment parce que vous avez mis la parole de Dieu en premier?
Mais c'est parce qu'on a mis la parole en premier. On a vraiment aussi... le Seigneur nous dit que les enfants, c'est un don de Dieu. On a été bénis avec une belle fille puis un beau garçon. On les a considérés en étant des êtres humains, des petites personnes, un don de Dieu. On les a toujours traités avec respect. Des fois, ça arrivait qu'ils étaient désobéissants, puis il fallait qu'on les
vraiment
corrige. Mais on prenait le temps de leur expliquer le comment et le pourquoi. Même, on leur disait qu'on avait tous une autorité au-dessus de nous. Puis, même la reine, elle a Dieu. Puis, mon mari, il avait son patron. Puis, moi, j'ai mon mari. Puis, on s'est dit, nous, c'est la parole qu'on suit. Puis, ils savaient. C'était la prière. Puis, des fois, s'il se passait des choses alentour, des enfants qui faisaient, oh, tout le monde le fait, mais on disait, nous, on le fait pas dans notre famille.
Est-ce que, justement, le fait d'avoir été pour vos enfants dans un foyer chrétien, ça a été une source de bénédiction ou une source de conflit?
Bien, je vais vous dire quelque chose. Moi, je sais, mes parents n'étaient pas des personnes parfaites. Ils ont fait le possible d'élever moi et ma sœur le mieux qu'ils pouvaient. Puis, comme de raison, je peux pas dire que c'était un foyer parfait, ça. Mais j'ai appris des choses de mes parents. Puis j'ai dit, comme on dit des fois, j'ai pris des notes et j'ai dit, quand que je serai marié avec ma femme et mes enfants, j'ai dit, je vais essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs. Mais une autre chose que je trouve c'est très important, puis c'est très important, c'est que je me suis mis à cœur de vivre la parole de Dieu devant eux. Parce que vous savez, on peut dire, fais pas ce que je fais, mais fais ce que je dis. Ça marche pas, ça. Parce que c'est important de dire, ben, si on veut que des gens soient meilleurs, ben là, si on est nous autres-mêmes une vie tout à l'envers, les enfants vont copier qu'est-ce que nous sommes. Donc, je me suis dit, moi, je vais être le modèle dans la maison de la parole de Dieu. Et même si, si j'ai fait une erreur, si j'ai dit quelque chose c'est pas correct ou j'ai agi pas correct, j'suis allé voir ma femme, mes enfants, dire, ben excuse-moi, j'ai fait une erreur, pardonne-moi, c'était pas mon intention. Mais je trouve que c'est important que c'est pas juste le fait de dire quelque chose, va de ta chambre et prier. Ça se dit, mais quand que moi, comme homme, dans mon foyer, si mes enfants voient que je suis un homme de prière, si je suis un homme qui lit la parole de Dieu et dit, la parole de Dieu nous dit ça, c'est pour ça que nous sommes comme ça, là, ils ont une référence, mais une référence qui est toujours la même. Les standards changent pas à cause que c'est 2012 ou peu importe l'époque que nous vivons, la parole de Dieu est toujours constante et c'est pour ça que j'ai assez d'être un modèle de la parole de Dieu en parole et en action. Et c'est pas long que les enfants comprennent la différence et c'est pour ça que me souviens, j'étais au travail et un de mes confrères de travail, quelqu'un lui a dit, il dit, j'ai entendu Wallace sacré. Puis mon copain de travail, il dit, c'est toi qui es en défaut, parce que je connais Wallace, puis c'est pas un sacreur. Le risé a tourné sur l'autre employé, parce qu'il dit, moi je connais Wallace, puis c'est pas un sacreur, ça arrivera jamais. Mais c'est juste pour vous dire que notre modèle que nous sommes, c'est tellement comment c'est important. Si on veut avoir dans tous les rapports, s'ils voient qu'on a deux poids, deux mesures, faut corriger ça. Et c'est une chose de tous les jours. Et moi, j'ai toujours dit aussi, c'est que ma priorité, c'est Dieu. Après ça, c'est ma femme. Après ça, c'est mes enfants. Et c'est pour ça que j'ai toujours suivi mes enfants. Parce que j'ai considéré aussi, c'est que si un enfant a juste l'âge pour rentrer à l'école, je me souviens quand j'ai commencé l'école pour la première fois maternelle, j'ai pleuré, je pensais ma mère m'avait abandonné. Et j'ai pleuré toute l'avant-midi, « Oh, je suis abandonné de ma mère. » Mais c'était pas ça. Mais c'est pour dire que à chaque étape de la vie, c'est un défi pour l'enfant. L'enfant, si à 15 ans, s'il pense que s'il passe pas son examen demain, il rentre pas à l'université. C'est important, c'est une crise pour lui. Mais j'ai essayé d'être là et dire, je vais prier pour toi. Je vais prier que tu réussisses dans des examens. Et c'est comme ça dans toutes les étapes de la vie.
Mon mari, pendant plusieurs années, a travaillé de 4 heures à minuit. Puis, pour nous, nos enfants, c'était la priorité. Ils se levaient tous les matins pour déjeuner avec les enfants avant qu'ils partent pour l'école. Puis après ça, ils venaient souper à 5 heures le soir, comme ça on pouvait passer du temps avec les enfants. Puis nos enfants ont toujours su qu'ils étaient les premiers, qu'ils pourraient arriver n'importe quoi dans leur vie. On serait toujours là pour eux. Comme mon mari a dit, il faut qu'on soit sur leur équipe. On les considérait, on les écoutait. Puis même, on essayait d'intégrer des principes bibliques comme des mensonges. Nous, on n'endurait pas ça chez nous. Puis aussi, il y a une fois que je me souviens, Joël, il se promenait en bicyclette, puis il y a une petite roche qui a revolé sur une auto. Puis il a gratiné l'auto, il a fait une petite bosse dessus. Il est venu chez nous, puis il a dit, « Maman, j'ai accroché, il y a une petite roche qui a revolé sur une auto. » Il n'avait pas peur de nous, même s'il avait fait quelque chose de mal, parce qu'il savait qu'on était là et qu'on était compréhensif. Ça fait qu'est-ce qu'on lui a dit? On a dit, bien, prends un petit papier, va mettre ton nom et le numéro de téléphone sur le taux, puis comme ça, les gens vont le voir. Ça fait que c'est ça qu'il a fait, puis plus tard, bien, les assureurs sont venus chez nous, mais tout ça, on a payé pour le dommage. Mais c'est ça, on prenait le temps de leur expliquer toujours le comment puis le pourquoi. Puis avoir de la droiture puis l'intégrité, ça fait qu'il n'avait pas peur de nous.
D'accord. Tout à l'heure, Fernande, vous avez parlé de que vous n'étiez jamais 100% d'accord, en tout cas pas tout le temps. Mm-hmm. Et on sait que les couples chrétiens, même dans la foi, ne sont pas épargnés des désaccords. Et j'ai une question, c'est quand vous aviez peut-être une dispute, un désaccord, comment ça se passait concrètement? On sait que tous les croyants, tous les couples ont des désaccords parfois, mais comment ça se passait si vous aviez un grand désaccord? Comment ça se passait concrètement?
Bon.
Pour le résoudre, oui.
OK, pour le résoudre. Premièrement, mon mari a toujours respecté mon opinion. C'est le mari qui est l'autorité du foyer, mais il me considérait. Je disais qu'est-ce que je pensais. Puis la décision finale, c'était toujours à lui. Mm-hmm. Puis même au début de notre mariage, il avait peur un peu de m'écouter. Puis je lui ai dit, « Ben, Wallace, si je te conseille mal, je vais en subir les conséquences aussi. » c'est pas juste lui qui va payer pour. Ça fait que c'est ça. Puis on s'en tenait toujours au point de désaccord. Si je disais, ben là, je suis pas. Ou si j'étais fâchée, je criais pas après. Puis tous les temps, là, je disais, ben je suis fâchée, je suis pas contente de ci. Puis j'allais pas chercher des choses 2 ans en arrière, là.
D'accord. Vous arriviez à pardonner. Quand
oui.
Vous pardonnez, c'était pardonné.
Ah oui.
C'est ça.
Et quand, les deux, on est pareil comme ça. Là,
Et quand il y avait un désaccord, en fait, vous alliez au point précis, vous n'alliez pas ici et là?
Non, on allait au point précis, puis on en discutait ensemble, on en venait à un accord. Mais je pense que c'est jamais arrivé. Ça a l'air drôle à dire, parce que Michael, l'autre fois, il nous a demandé, je pense la semaine passée, « Fernande, est-ce que vous êtes déjà fâchée contre Wallace? » J'ai dit « Oui ». Mais je me souvenais pas rien en particulier, mais maintenant je m'en souviens. Je me souviens au début de notre mariage, mon mari était plutôt timide. Puis, on avait été invité à une fête de Noël chez une maison, puis toute la parenté, ma parenté était là. Puis lui, ça ne tentait vraiment pas de venir. Il est venu pour me plaire. Mais cette veillée-là, il n'a pas dit un mot à personne de toute la veillée. Même s'il n'est pas parlant. Puis là, quand on est revenu chez nous, j'ai dit, je vais me soumettre, là, si tu ne veux pas vraiment venir. J'ai trouvé ça terrible qu'il n'avait pas adressé la parole à personne. J'étais fâchée contre, là.
Ça, Pasteur Wallace, je ne sais pas s'il a quelque chose à dire pour sa défense. Ou... C'est le moment, après, ce sera trop tard.
Je pense que vraiment, les je peux dire honnêtement que quand je ne suis pas d'accord, ma solution, c'est la prière. C'est vraiment... parce que même si on gagne un conflit, on perd quelque chose dans le conflit. OK? Et on dirait qu'on a, on a emmagasine ça pour la prochaine fois. Mais je crois vraiment pour que la vie à deux soit coule bien, que vraiment faut se mettre comme j'ai toujours mis ça dans la prière, puis dire ben ok, je suis pas d'accord, mais tu sais, le Seigneur entreprend. Puis c'est comme ça que la plupart, je me souviens pas d'un temps que j'ai été pris dans une situation qui s'étirait beaucoup. C'était toujours une résolution que Dieu a permis qu'on change de notre prise pour quelque chose qui convenait à nous deux. Mais je crois sérieusement, c'est juste par la prière que les choses ont changé.
D'accord. Fernande, je ne sais pas si ça vous dérangerait de raconter une petite anecdote que vous nous avez racontée cette semaine, mais parce qu'on sait qu'une des grandes causes aujourd'hui des séparations dans les couples, c'est l'adultère. Et Fernande, elle n'a commis aucun adultère, mais... Et justement, c'était pour c'était une belle anecdote, comment elle était ferme et qu'elle n'a pas laissé de place du tout à l'ennemi ou à quoi que ce soit. Et vous rappelez l'anecdote à IBM, quand vous étiez fait courtiser. Oui, parce que je trouvais que c'était un bel exemple de comment elle a réagi. Et c'est, si les couples réagissaient tous comme ça dès la première fois, sûrement qu'on n'en arriverait pas à un adultère et ni à des divorces. Donc, je vous laisse la parole.
Moi, je me souviens pas c'était quoi, là, mais je travaillais chez IBM. Puis, il y avait quelqu'un qui m'a fait de l'œil un peu. Puis, il me disait qu'il était plus jeune que moi. Puis, il me disait, « Oh, moi, j'aime ça, les femmes plus vieilles. » Puis, apparemment, sa blonde était plus âgée que lui. Puis, je savais pas trop quoi lui dire, mais là, je lui ai dit, « Mais moi, j'ai un bon mari. » Puis, j'ai dit, « Je connais pas aucun homme qui arriverait même à sa cheville. » Ça fait que ça l'a placé tout de suite.
C'est une excellente réplique à garder pour vous si quelqu'un vous fait de l'œil. « Mon mari, tu n'arriveras jamais à la cheville de mon mari. » C'est excellent. C'est bon. Je le dis aussi.
On a peut-être une ou deux dernières questions. Une des questions aussi qu'on peut se poser, c'est que on parle d'une vie, on est tous de la même nature. Est-ce que vous avez été épargné d'attaques de l'ennemi? Parce que c'est sûr, quand on est croyant, on peut penser qu'on peut être aussi plus attaqué, certainement quand on met encore Dieu en premier dans notre vie. Est-ce que vous avez eu des attaques particulières de l'ennemi?
Je peux vous dire qu'on a eu une grosse attaque, c'est que j'ai eu le cancer. Puis ça, c'était le plus gros problème de toute ma vie. Puis quand j'ai appris ça comme de raison, le médecin me l'a dit, là, j'ai pleuré. Puis c'est un peu normal, hein, je suis encore humaine. Là. Mais le Seigneur m'a soutenue au travers de cette épreuve-là. Qu'est-ce qui était difficile aussi, c'est que mon mari avait toujours les réunions de prière. C'était à cette époque-là, le mardi matin. Il devait encourager les gens, puis demander des requêtes, puis la prière. Puis là, tout le monde dans l'assemblée savait qu'on passait cette épreuve-là. Fait que c'est des fois, c'est difficile d'encourager les gens à continuer à croire au Seigneur quand nous autres-mêmes, on vit une épreuve. Mais les gens nous ont vus. Quand on regardait toujours au Seigneur, j'étais pas déprimée, je passais pas mes journées à pleurer. Je me suis vraiment appuyée sur le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui est le médecin. Puis même si j'ai dû passer par l'opération, par les choses naturelles, je regardais toujours au Seigneur, j'avais les yeux fixés sur lui. Puis je me disais constamment, Jésus m'aime, même à travers l'épreuve. Puis, je me souviens, il y a une personne qui m'a demandé, « Qu'est-ce que tu as appris à travers ça? » Puis, je lui ai dit, « J'ai appris que Satan ne m'aime pas puis qu'il voulait me détruire. » Ça fait que je ne me suis pas posé la question « Pourquoi moi? » et tout ça. Mais j'ai regardé au Seigneur, puis j'ai resté ferme dans la foi. Puis c'est le Seigneur qui a été mon soutien. Puis même à travers ça, je pense que avec la grâce du Seigneur, j'ai su être un témoignage même pour ceux qui m'entouraient, les autres chrétiens alentours. Ils nous ont pas vus à terre, puis tout ça. Même des fois, mon mari m'a frustrée. Parce que j'avais de la chimio, de la radio, même les derniers temps, c'était 7 heures de chimio, c'est long, assis à une chaise, puis tout ça. Puis, des fois, mon mari, une fois, il a dit, « Ah, ben, pour moi, c'est comme une bosse sur la route. » J'ai dit, « Ouais, ta femme passe proche de mourir, puis c'est une bosse sur la route.
» Mais c'est de conviction.
Mais c'est pour montrer que le Seigneur le soutenait, puis... Mais ça m'avait frustré cette fois-là.
Je vais vous l'expliquer pourquoi. Non seulement que Dieu voulait détruire ma femme, il voulait me détruire moi aussi. Et c'est, si j'aurais laissé me faire tuer par ces paroles-là, non seulement j'aurais perdu ma femme, mais j'aurais perdu ma vie moi aussi. Et c'est pour ça que j'ai résisté. Savez-vous, Dieu était sympathique envers moi parce que j'étais dans le bureau du médecin quand elle a eu le résultat de tous ces examens-là. Et le docteur a dit, madame, a dit, je peux peut-être pas sauver votre sein, mais a dit, il va sauver votre vie. Et aussitôt qu'il a dit ces paroles-là, c'est comme j'ai entendu ça du ciel. C'était comme, merci Seigneur, je perds pas ma femme. Et c'était ennuyant, c'était plate, c'était aller au rendez-vous, aller au traitement et tout ça, mais j'avais la conviction dans mon cœur que ma femme va rester, va être encore avec moi pour plusieurs années à venir. Et c'est pour ça que ma femme m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire dans la réunion de prière mardi matin? J'ai dit, je vais continuer pareil. Et c'est pour ça que des fois, j'ai dit, pour moi, c'est un inconvénient, c'était pas quelque chose que nous voulons vivre, mais on faisait face à la musique et on a dit, merci Seigneur pour la vie que tu vas garder dans le corps de ma femme, puis tu vas la sauver. Et aussi, je vais continuer à garder ma foi dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est amusant d'un sens, mais il y avait deux morts dans ça, dans cette situation-là. Puis moi, j'ai choisi de, comme la Bible dit, j'ai choisi de choisir la vie. Amen. J'ai choisi de croire la parole de Dieu en dépit de tout ce que l'homme peut nous dire, que quand on met notre confiance dans la parole de Dieu, on est solide deux fois dans notre situation.
Puis la parole de Dieu est quand même la vérité, même si les circonstances dans notre vie changent, le Seigneur est encore le médecin, le Seigneur guérit encore. Puis je me disais toujours, je disais, merci Seigneur pour ton sang pur et parfait qui coule dans mes veines. Parce que le sang vient du Père, puis mon Père céleste, c'est le Seigneur. Ça fait que je dis, merci Seigneur pour ton sang pur, merci Seigneur pour ton sang parfait. Puis j'ai lu aussi la prière d'Anne. Qui disait, merci Seigneur parce que tu me sens de force. Mm-hmm. Puis des fois, quand j'étais faible, je disais, merci Seigneur parce que tu es ma force, tu me sens de force. Puis je citais les paroles du Seigneur, la parole de Dieu qui est oui et amen, puis qui ne change pas. Amen.
En tout cas, on veut vraiment remercier le Seigneur pour un peu ce survol de votre témoignage. On voit que vous êtes des gens de conviction, des gens de foi. Et je veux encore souligner toutes ces petites attentions qu'on voit chez l'un, chez l'autre, chez vos enfants, qui ont été transmises. Des choses que parfois les gens pourraient trouver ça un peu rétro, d'ouvrir la porte à sa femme, d'écrire des petites cartes d'amour. On a été manger parfois chez vous et là, votre mari vous avait écrit une belle carte, c'était avec des mots tellement magnifiques. Et on veut vraiment remercier le Seigneur pour ça, pour l'exemple que vous êtes au milieu de nous dans cette église et au-delà maintenant, de voir la main de Dieu sur vous, comment vous pouvez vous aimer, comment vous pouvez vous apprécier. Et on sait que malgré toutes les difficultés, les épreuves que vous avez eues, vous avez laissé le Seigneur en priorité. Et on voit que ça a donné quelque chose de bon, quelque chose d'agréable, quelque chose de parfait. Et juste pour terminer, peut-être vous pourriez, peut-être Pasteur Wallace, prier pour les hommes ici et Fernande prier aussi pour les femmes parmi nous dans ces 2-3 prochaines minutes qui viennent. Non seulement les gens mariés, aussi ceux qui sont peut-être en voie de rechercher quelqu'un ou les célibataires.
Excusez-moi, j'aimerais ajouter un petit quelque chose à notre secret, parce que ça s'appelle notre secret. Notre secret, c'est qu'on vit la vie chrétienne sans compromis. Puis qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça qu'on croit. Puis on regarde toujours à Jésus parce que Là, j'ai 63 ans, puis j'ai été sauvée à 5 ans. J'aurais eu plusieurs raisons d'abandonner le Seigneur. J'en ai vu toutes les couleurs, croyez-moi. Mais j'ai toujours regardé à Jésus. Il ne faut pas qu'on regarde aux côtés. Il y en a qui tombent à notre gauche, à notre droite. Mais Jésus est toujours le même. Jésus est fidèle. Puis Jésus est le roi des rois. Il vit Amen. Dans nos vies. Gloire à Dieu.
Amen.
Nous allons prier ce matin. Seigneur, je te remercie pour ta présence avec nous, ta parole avec nous. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as sauvés par ton sang précieux. Tu as payé le prix pour notre liberté. Tu as payé le prix, Seigneur, pour notre sagesse. Tu dis qu'on peut demander la sagesse dans la vie d'aujourd'hui. Et je te remercie, Seigneur, pour ta parole vivante, que tu es encore vivant ce matin. Tu es encore notre meilleur ami ce matin. Et pour les hommes, Seigneur, qui ont des défis devant eux, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, Seigneur, je prie de fondre les montagnes, de fondre les obstacles, et Seigneur, qu'ils puissent marcher avec une assurance que ta parole est la vérité, ta parole va être éternelle. Et Seigneur, nous, on n'est pas des orphelins, mais on est des co-héritiers avec Christ ce matin. Et Seigneur, nous, les paroles de Dieu, c'est oui, amen. Les promesses de Dieu sont oui, amen. Et tu fais pas d'exception de personne. Merci Seigneur. Et ce matin, nous te remercions parce que nous sommes des leaders dans nos familles, dans nos travails, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, les yeux du monde sont sur nous, mais Seigneur, nous avons nos yeux sur toi ce matin. Ta force vient d'en haut, notre force vient d'en haut, notre courage vient d'en haut. Et Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous instruit. David a dit, instruis-moi dans tes voies. Nous voulons, Seigneur, que tu nous conduis dans ta parole, dans les choses que nous avons besoin, Seigneur, qu'on puisse t'honorer dans toutes choses. Et Seigneur, qu'on soit des hommes de conviction, qu'on soit des hommes déterminés, qu'on soit des hommes avec une vision céleste pour toi, et que notre famille soit bénie de toi. Et Seigneur, nous te remercions pour la vie aujourd'hui. Et Seigneur, merci pour la vie abondante en toi aujourd'hui. Merci pour la vérité de ta parole, que nous sommes plus que vainqueurs ce matin. Et il n'y a pas aucun obstacle devant nous. La montagne va se déplacer par la foi grand comme un morceau de sénévé. Et Seigneur, la montagne va sauter devant nous ce matin. Nous appelle à être dans la liberté de ton évangile, la liberté de ta parole, la liberté, Seigneur, que tu as payé la dette de nos péchés, nos manquements, nos défauts, notre faiblesse, et afin de nous donner au-delà de ton cœur, au-delà de ton amour, au-delà de qu'est-ce qu'on peut même prier ce matin, Seigneur, tu veux nous bénir abondamment et nous garder encore debout pour plusieurs années d'expérience avec toi, de joie, de victoire et de foi en toi, dans ta sainte parole. Et Seigneur, je bénis les hommes, petits hommes, et tous les hommes ici ce matin, de tous les âges, Seigneur, nous te remercions de nous apprendre la vie chrétienne davantage et de creuser plus dans ta parole, de creuser plus dans ta présence, de creuser ton cœur davantage aujourd'hui même. Et Seigneur, merci pour ce temps que nous avons partagé ensemble et merci Seigneur pour la bénédiction qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen.
Seigneur, mon Dieu, je te remercie pour ton grand amour, ta fidélité. Merci parce que tu es toujours le même, Seigneur. Puis je veux prier aussi, Seigneur, pour mes sœurs. Merci parce que tu les aimes. Merci parce que c'est toi qui nous as créés, Seigneur. Souvent, on est plus sensible que les hommes, Seigneur, mais toi, tu nous connais, Seigneur. Puis, Seigneur, je te prie, Seigneur, d'exaucer les prières ce matin. Ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur, ceux qui ont besoin de guérison, au nom de Jésus, soyez guéris, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, ô Dieu, parce que tu nous aides à toujours regarder à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui es la source, c'est toi qui es notre réponse, c'est toi qui es notre paix, puis c'est toi qui es notre joie, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.
Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. l'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.